Bonsoir. Ce mercredi 10 décembre 2025, la ville d'Uvira, chef-lieu temporaire du Sud Kivu, est passée sans aucun combat sous occupation du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Plusieurs témoins confirment la présence visible des groupes de rebelles dans les principales artères de la cité, tandis que d'autres rebelles se sont dirigés vers Kavimvira, la frontière avec le Burundi. Les rebelles sont entrés dans la cité, sont rencontrés une résistance. Et selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise s'était déjà retirée de la ville la veille en direction de Suimoa, Makobola et Baraka dans le territoire de Fizi. Quelle lecture faire de cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 10 décembre 2025. Participe au débat Juvenal Munubo, avocat, cadre de l'Union sacrée de la nation, député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Juvenal Munubo, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, député national honoraire, premier vice-président du parti politique Engagement citoyen pour le développement et SID en sigle, c'est un parti de la coalition Lamouka. Il est également notable de la province du Nord Kivu. Jean-Baptiste Omundo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir Kelly et toutes mes condoléances à la population d'Uvira et à tous les réfugiés qui sont à Bujumbura, dans le territoire de Fizi et partout ailleurs.
Henri Pacifique Mayala est également avec nous dans ce débat. Il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. C'est un projet de recherche sur la violence à Ebouteli. Ebouteli, qui est l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Pacifique, Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à l'honorable Kasekwa, bonsoir à l'honorable.
Aboukavou au sud Kivu, merci Henri Pacifique. Aboukavou au sud Kivu, vous nous suivez sous la 95.3 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net, sur DSTV, canal 867, mais vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiokapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, une présence des troupes du M23 est signalée depuis ce mercredi avant midi dans la ville d'Uvira, au sud Kivu. Cette présence intervient après plus d'une semaine de combats acharnés entre ces rebelles et les forces gouvernementales dans la plaine de la Ruzizi. Voilà, Ronelli Timonera pour le reportage.
C'est précisément vers 11h30, heure locale, que les premiers éléments de l'AFC M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont été aperçus dans la partie nord de la ville vers Kavimvira, en direction du centre de Mulongwe. Selon de notables d'Uvira agents sur place, les rebelles n'ont rencontré aucune résistance en foulant les sols de la cité. En file indienne, un groupe s'est dirigé vers la frontière des Kavimvira, à la limite avec Bujumbura, capitale burundaise. Nous observons leur mouvement depuis nos maisons par peur, a déclaré un habitant des Kiromoni, joint par Radio Kapi. Cette entrée des troupes du M23 à Uvira intervient alors que les militaires de FARDC s'étaient déjà retirés de la ville depuis hier en direction des Suima, Makobola et Baraka dans les territoires voisins de Fizi, indique de sources sécuritaires. Nous n'avons pas encore reçu la réaction officielle des autorités provinciales du Sud Kivu à ce sujet.
Merci Ronelli pour tous ces détails. Juvenal Munubo, je rappelle que vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. La ville d'Uvira vient de passer entre les mains ou tombe entre les mains de l'AFC M23, soutenue par l'armée rwandaise. Alors, d'abord, votre première réaction par rapport à cette ville, énième ville de la RDC qui vient de tomber entre les mains des rebelles.
Alors, tout d'abord, je voudrais saluer les autres intervenants, honorable Jean-Baptiste Kasekwa et Henri Pacifique Mayala. Je voudrais aussi, à la suite de l'honorable Kasekwa, exprimer ma compassion par rapport à ce qui se passe à Uvira. Uvira, c'est dans la République démocratique du Congo. Et puis, ce sont nos compatriotes, des humains ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui sont en déplacement maintenant dans le pays voisin. Et émettre les vœux que la paix revienne le plus rapidement possible. Je voudrais souligner l'importance de Uvira. Uvira, ce n'est pas un millier quelconque, en tout cas sur le plan géostratégique, par rapport à la progression de ces rebelles, l'AFC-M23. Eh bien, Uvira est à considérer comme un verrou. Un verrou qui, si ce verrou saute, il y aurait lieu, il y a à craindre que les rebelles progressent un peu plus au sud. Et une autre grande agglomération, c'est Kalibi, dans le Tanganyika. Parce que là, il reste Fizi Baraka. C'est vrai que traditionnellement, c'est un millier de la résistance. Hein. Il faut quand même avouer cela dans l'histoire du Congo. Mais est-ce que la résistance va s'organiser cette fois-ci? Donc, on sait bien qu'il y a beaucoup de groupes Maïmaï entre Uvira et Kalemi. Et donc, s'il n'y a pas une résistance là-bas, et donc c'est Kalemi la prochaine étape. Et puis, les lacs pourraient faciliter aussi si on ouvre, on n'est pas vigilant. Parce que dès là, par les lacs Tanganyika, on accède à Kalemi. Il faut aussi voir ce que pourrait être l'attitude de notre voisin, la Tanzanie. Hein. On sait ce qu'a été l'attitude du Burundi. Le Burundi nous a aidés. En tout cas, il a utilisé de tous moyens. Et jusqu'à ce que le Burundi est en alerte aussi pour sa sécurité, la raison pour laquelle ses frontières nationales ont été fermées aujourd'hui. Mmh. Et donc il reste à savoir quelle est la position de la Tanzanie. Est-ce que la Tanzanie va nous aider à sécuriser les lacs Tanganyika? Ça c'est une question, il faudrait bien voir. Alors pourquoi Uvira est tombé? Uvira est tombé. Alors, pourquoi l'intensification des affrontements juste après la conclusion d'un accord à Washington? Eh bien, moi, j'ai compris que c'est une façon pour la rébellion d'éprouver son existence, une existence, je dirais, indépendante selon eux, du Rwanda. Donc, ils disent, voilà, comme vous avez signé à Washington avec le Rwanda, vous, le gouvernement congolais, nous voulons vous démontrer que nous pouvons exister par nous-mêmes. Vous voyez, c'est un peu comme ça, faire monter la pression, et ils veulent, coûte que coûte, pousser vers Doha. Hein? Bon, évidemment, la reprise de Doha, ce n'est pas seulement eux qui ont besoin à ce que Doha reprenne rapidement, c'est nous tous, parce que moi, personnellement, je ne crois pas, depuis un certain temps, je ne crois pas à la possibilité d'une victoire militaire lorsqu'on voit les forces en présence. Et que la voie de la sagesse,
hein, c'est celle. Et justement, en parlant victoire militaire, beaucoup de gens se posent la question comment on peut justifier le retrait ou repli stratégique de l'armée de la ville d'Uvira, chef-lieu temporaire de la province du Sud Kivu, laissant la ville tomber sans aucun combat aux mains du M23 soutenu par le Rwanda.
Alors, les combats ne devraient pas, en tout cas, se mener en pleine ville, hein, sinon il y aurait vraiment un bain de sang. Il y a eu un point d'affrontement, d'achoppement, c'était Luvungi. Il y a Kamanyola et Luvungi. Et là, il y a eu d'âpres affrontements. C'était avec l'usage même des drones et tout. Je pense qu'on a tous suivi cela. Et donc, le fait que Luvungi est tombé, eh bien, il y a eu un repli sur... Le repli a eu, effectivement,
sur... Mais selon certaines sources, de Luvungi jusqu'à Uvira, il n'y a pas eu combat entre M23 et l'armée congolaise.
Justement, parce que les verrous, parce que pour constituer un verrou, il faut du temps. Il faut prépositionner les matériels et tout. Et le prépositionnement était si important à Luvungi, à Kamanyola et Luvungi. Raison pour laquelle, quand ce verrou est sauté, eh bien, il y a eu un repli sur Uvira. Alors, est-ce qu'il fallait bien engager une guerre en plein Uvira? Moi, je crois que sur le plan stratégique, ça n'aurait pas servi la cause de la paix, parce qu'il y aurait un bain de sang dans la ville.
Et ça sera alors, comme ça à chaque fois, à chaque ville.
Les replis, dans toutes les guerres, il existe toujours un repli. Les replis, ce n'est jamais une conclusion que l'autre partie est en faiblesse, la partie qui a fait le repli. Ça peut être une façon de se réorganiser. Alors, nous souhaitons, nous tous, que l'autorité de l'État soit rétablie à l'Est. Hein, en tout cas, par tout le moyen, à défaut d'une solution militaire, une solution politique. Mais étant donné qu'on a déjà engagé en route deux processus de paix importants, les processus de Washington, même si à Washington, je suis resté quand même sur une soif parce qu'on a privilégié des questions beaucoup économiques en lieu place des questions de sécurité et de paix. Moi, je pensais que Washington nous permettrait d'avoir une feuille de route actualisée pour la question FDLR, comment on y met fin. et puis la question des retraits des troupes rwandaises. Moi, je pensais que les quatre, on aurait un peu plus de précision sur ces deux questions-là, hein, qui font à ce que les relations entre le Congo et le Rwanda se refroidissent. Alors, je crois aussi qu'à part Washington, il y a Doha. Il n'y a pas de raison. Doha devrait reprendre pour négocier les autres 6 protocoles et conclure la paix. Est-ce qu'au vu de la situation sur terrain, est-ce que la rencontre de Doha ou la poursuite des négociations sur le fond à Doha, est-ce que c'est pour bientôt? Je suis un tout petit peu sceptique, à moins qu'il y ait de la pression sur le plan diplomatique. Raison pour laquelle ceux qui nous ont aidés d'abord à réaliser ce sommet à Washington, entre cette rencontre au sommet entre Tshisekedi et le président Tshisekedi et le président Kagame, ils ont la possibilité, je parle ici des États-Unis, du président Trump, il n'y a pas que les États-Unis, les autres
puissances. Ils ont la possibilité de stopper la rébellion, de demander
ils ont la possibilité.
Aux rebelles de ne plus avancer, de se retirer.
Il suffit d'un coup de fil. Il parle, même on a vu, j'ai vu les groupes de contact qui a fait un communiqué conjoint sur les Grands Lacs. Mais au-delà de ça.
Mais c'était pareil pour Goma et Bukavu. Est-ce qu'il faut compter sur la communauté internationale, Juvenal Munubo?
Vous savez, parfois, la communauté internationale intervient. Vous avez suivi ce qui s'est passé, en tout cas pas plus tard qu'il y a 3 jours, au Bénin. Si vous lisez une dépêche de vos confrères des médias francophones, eh bien, la France a envoyé des forces spéciales, non, pour aider les présidents. Il n'y a pas que le Nigeria qui est intervenu, il y a la France aussi. Et donc, même si on peut dire que l'époque des interventions des forces spéciales, ou l'époque, par exemple, où la France nous a aidés à sauver Kolwezi en 1978, on peut dire que c'était en pleine guerre froide et que c'est révolu. Mais si on observe bien, il arrive parfois, si les Occidentaux ont des intérêts, hein, il y a des endroits, bien s'ils ciblent bien leurs intérêts, ça arrive parfois qu'ils interviennent directement pour aider un pays en difficulté, parce que là, on fait face à une agression. Il existe une résolution des Nations Unies, la 2773, qui condamne le Rwanda et qui demande à ce que le Rwanda retire immédiatement ses militaires, mais une résolution qui n'a pas été suivie par les processus de Washington et qui n'a pas été suivie par les processus de Doha, parce qu'on ne parle plus vraiment. Hein, quand vous lisez l'accord cadre de Doha le plus récent, eh bien, on ne parle plus de cette question des retraits immédiats. Hein. Et la levée des mesures de défense du Rwanda, d'ailleurs un terme qui est vague et qui est resté vague. Et puis, de plus en plus, on ne parlait même plus de ça, quoi. Et si vous lisez l'accord cadre de Doha, c'est comme si on va vers une co-gestion de l'Est, hein, avec la rébellion du M23. Et donc, on s'est éloigné de la résolution 2773. Les États-Unis expriment leur ambition d'accéder aux ressources à travers une chaîne d'approvisionnement saine, ressources de minerais. Ce n'est pas mal. C'est ainsi va le monde.
Est-ce que les négociateurs du côté de la RDC ont mal négocié?
Alors, on a besoin de l'intégration. Je ne dirais pas qu'ils ont mal négocié. On a besoin de l'intégration, mais la question, c'est quoi? Est-ce que le Congo est prêt à une intégration économique sous-régionale? C'est ça, parce que vous ne pouvez pas intégrer pour construire un ensemble régional si vous n'êtes pas vous-même intégré. C'est ça. Le problème au Congo, c'est qu'on n'a pas des infrastructures de base. Le pays n'est pas interconnecté. Quelqu'un qui vit à un point comme ça, séparé de 50 kilomètres d'une communauté, eh bien, il ne sait quasiment pas ce qui se passe à 50 kilomètres. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. C'est difficile de se mouvoir à l'intérieur de l'espace RDC. Alors là, ça rendra difficile une intégration. Et donc, aller dans une intégration, nous risquons d'être perdants, alors que ceux qui ont développé en interne des infrastructures risquent d'en sortir gagnants. C'est un peu ça, là. Mais je ne suis pas contre l'intégration, parce que l'Europe, le succès de l'Europe, c'est un exemple parfait d'une intégration. Mmh. Et donc, c'est une bonne chose. Mais tout ça, c'est bien. Hein, cadre d'intégration régionale, les accords stratégiques. J'ai vu que Washington en a signé avec le Congo et le Rwanda. Mais la priorité, je crois que mon collègue Honorable Kassé, quoi, tout comme Henri Pacifique Maya, la serait d'accord avec moi, c'est d'abord des questions de paix et de sécurité, sans lesquelles c'est difficile de faire toute autre chose.
Merci. Philo Amnini, vous nous suivez depuis la page Facebook de Radio Capi. Vous dites à l'heure où nous sommes, ce n'est plus à calculer. Nous sommes très inquiets de voir 3 grandes villes se vider. On nous parle chaque fois de repli stratégique, à mon avis. La faiblesse se trouve au sein du commandement. Des Sangé-Louvungi, il n'y a pas eu affrontement, une chose est certaine. soit c'est le gouvernement qui laisse faire, soit c'est la maison militaire. Alors, Jean-Baptiste Omendoka, c'est quoi, député national honoraire, premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement et SID, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes également notable hein, de la province du Nord Kivu. Votre réaction après la chute de la ville d'Ouvira. On nous a dit qu'Ouvira ne va pas tomber. Aujourd'hui, Ouvira entre les mains des rebelles de la FCM23 soutenus par le Rwanda. Votre réaction?
Alors, parler de la chute de la grande ville d'Ouvira, c'est aussi parler de la destruction des vies des Congolais. Des Congolais ont été tués dans le village de Mutarule, dans la plaine de la Ruzizi, au début de cette relance des hostilités par l'AFCM-23 et l'armée rwandaise. Des compatriotes sont morts par des bombes à Luvungi. Nous avons vu des images insupportables. À Sangé, je parlais ce matin à un déplacé, un papa qui a perdu 4 de ses enfants. Je parlais ce soir à des compatriotes qui manquent de tout dans les sites de transit de Gatumba au Burundi. Le Burundi a disponibilisé des camions à la frontière et plus de 40 000 compatriotes sont à la belle étoile. Un litre d'eau à Bujumbura vient de passer de 2 000 francs burundais à 8 000 francs. Et ces compatriotes manquent de tout. Et donc ceux qui ne sont pas morts des tirs, des bombes, risquent de mourir de faim, de soif, de froid, des enfants, des femmes abandonnées. D'autres ont fui vers l'axe Fizi-Baraka. Je parlais à des amis ce soir. C'est la catastrophe. Et à Bujumbura, l'ambassadeur, même ceux qui avaient déjà fui, ceux qui sont là depuis février, disent que l'ambassadeur garde une très longue distance vis-à-vis des compatriotes. Il dit que lui, il ne représente que Tshisekedi là-bas. Il n'est pas là pour l'intérêt de ses compatriotes-là. Depuis que ces 40 000 sont dans les camps de transit de Gatumba, aucun officiel congolais n'a fait signe de présence.
Mais d'autres sont cachés. Il y a le ministre chargé, je pense, de la diaspora qui a fait un tour dans les camps de déplacés au Burundi il y a quelques semaines.
Mais pour si quelle solution? Les compatriotes avec lesquels je parlais, ils lui ont décrit effectivement le comportement de cet ambassadeur, l'insensibilité à la souffrance. Ils en ont parlé lorsque le vice-premier ministre Jacques Chabani est passé par Bujumbura, de comment ils étaient abandonnés. Aucune solution. Mais à part ceux-là qui ont fui, d'autres dans des brousses autour d'Ouvira. Mais Ouvira et les gens sont enfermés dans leur maison. Et les nouveaux occupants commencent une opération de ratissage avec des risques d'assister à ce à quoi nous avons vécu à Sake et à Goma. Tous les jeunes assimilés au Wazalendo, moindre tatouage, vous êtes portés disparus. Bref, la destruction des villes des Congolais continue. Et ça, c'est à 42 mois de la prise de Bunagana, où les mêmes scènes de déplacement des compatriotes vers l'Ouganda, vers Rutshuru centre, jusque dans les cas autour de Goma, a continué dans l'indifférence totale de Kinshasa. Ouvira vient tomber après 11 mois après Goma, 10 mois après Bukavu. Alors qu'en février, on a vu la population de Bukavu, de Ouvira se mobiliser pour apporter appui au FARDC en vue de défendre l'intégrité territoriale. Comment nous en arrivons là aujourd'hui? On dit souvent il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Le commandant suprême des FARDC, le commandement de M. Félix, doit être questionné aujourd'hui. Le Congo ne peut pas continuellement être humilié de cette façon-là et que vous qui êtes commandant suprême, vous restez là, j'ai suivi avec beaucoup d'indignation son fameux discours à la nation d'avant-hier. J'ai suivi son retour triomphal de Washington. Au point que je me pose la question, quelle est la victoire qu'il était en train de célébrer d'Njili à descendant vers Changu
il était hissé au bord de sa voiture comme s'il remportait une victoire. Est-ce que nous allons nous contenter de la simple victoire de sauver un régime et à salut d'un régime au sein de tous les minéraux, lorsque vous lisez le fameux accord de partenariat stratégique RDC-Washington, on a bradé systématiquement tous les minéraux. Et quelle est la contrepartie que ces populations de Uvira gagnent de ces accords de Washington? Que ces populations de Fizi, parce que nous apprenons que ces gens qui viennent d'endeuiller Uvira ce soir, ils se proposent déjà d'aller rapidement vers Baraka Fizi pour sécuriser, disent-ils, leur conquête sur Uvira. Quelle est la dividende que ces populations de Fizi territoire gagnent de ces accords dont on le célèbre victorieusement la signature à Kinshasa? Bref, il est temps, de mon point de vue, que l'on demande des comptes sans complaisance à M. Félix, qui a la charge de la protection des Congolais ainsi que de l'intégrité du territoire national.
Alors, est-ce qu'on peut parler des faillites de la politique sécuritaire du gouvernement congolais?
Non seulement des faillites, mais également la politique diplomatique de M. Félix. Nous l'avons dénoncé depuis le début, que en fait, en sollicitant l'intervention des Américains, ce n'était pas pour la sécurité des populations meurtries de Beni, de Lituri, de Uvira, de Goma ou de Masisi, de Walikale. C'était simplement pour assurer son maintien au pouvoir, assurer éventuellement l'accompagnement des États-Unis pour le changement des constitutions en 2028, et pour ça, il est prêt à tout donner. Mais est-ce que nous allons nous contenter de ça et rester bras croisés? Mon collègue Juvenal Mounoumbo l'a bien dit. En Andéa, Louvungi jusqu'à Uvira, les gens du FCM23 veulent nous mettre dos au mur pour tout obtenir dans le fameux 6 protocoles à Doha. Donc, ils vont obtenir la congestion de l'Est de la RDC de la même manière que Trump vient d'obtenir la congestion de tous les secteurs miniers de la RDC. Et donc, est-ce que nous allons nous contenter de ça et accepter ces fameuses formules de force spéciale intérimaire 50% M23? Nous allons accepter ces dispositions qui sont contenues dans leur fameux protocole et rester bras croisés? Non. Il est temps que la société civile congolaise, l'Église, toutes les forces politiques, nous nous levons pour dire nous n'avons qu'une nation à sauvegarder. Si nous restons bras croisés et laisser les deux belligérants conclure des arrangements tels qu'ils le veulent pour que les uns gardent le contrôle du Kivu, que l'autre se félicite du contrôle de son pouvoir à partir de Kinshasa, eh bien, nous n'aurons plus une nation à sauvegarder, nous n'aurons plus un territoire, et donc, merci, nous devons changer de fusil d'épaule.
Merci. Baraka Noël, vous dites que ni Doha ni Washington ne nous apportera la paix. Alors, Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security. Alors, votre analyse ou lecture de la situation, Uvira, qui est tombé. Déjà hier, il y avait des alertes sur la situation dans cette ville du Sud-Kivu, cette ville qui était le chef-lieu temporaire de la province du Sud-Kivu. Aujourd'hui, ce sont les rebelles qui sont dans la ville, qui contrôlent la ville d'Uvira. Votre réaction?
Rebonsoir, Madame Kelly, rebonsoir aux honorables. Pour moi, ça tombe sans surprise. Comme je le disais déjà la fois passée, je n'attendais pas grand-chose de Washington, moins encore de Doha, en tout cas pour ce qui concerne le rétablissement de la paix sur le long terme. Que Uvira tombe comme un fruit mûr, pratiquement le lendemain de l'entérinement de l'accord de paix qui devrait être un signal fort, au moins pour le la mise en vigueur du cessez-le-feu, C'est interpellateur. Que Ouvira tombe le même jour, ou en tout cas au lendemain du jour où le président de la République présente devant le Congrès l'état de la nation, et que ça soit sous un ton pas assez ferme, que l'on dénonce un accord que l'on ne devrait pas déjà signer, cela est super interpellateur. À ce stade, je pense aussi, et pour revenir sur ce que a mentionné l'honorable Monobo, il faudrait que nous cessions de nous leurrer. Je pense qu'on pourrait tous recourir à la même source et se dire qu'il est très peu probable qu'il y ait un déploiement des troupes américaines sur le sol congolais. Et je pense qu'à un certain niveau, le gouvernement s'est réfugié dans ce faux espoir, espérant que voilà, il y aura cette intervention et que ça devrait. J'ai beaucoup aimé lorsque le président de la République, durant son allocution, a tacitement admis qu'on ne devrait pas continuer à compter sur les interventions étrangères, que ce soit régionales ou des collaborations avec des sociétés militaires privées ou des pays étrangers. On voit aujourd'hui comment est-ce que le Burundi s'est retiré, ils sont en train de nous regarder de l'autre côté. On a vu la SADC plier bagage et nous avons vu les Roumains aussi repartir. Donc, je pense qu'il faut être assez clair avec nous-mêmes. C'est qu'à ce stade, on est voué à notre propre sort et n'est pas fabriquer des espoirs qui ne mèneront nulle part. Aujourd'hui, le sort de toute une nation est scellé sur le bon vouloir d'un dirigeant le plus puissant, en tout cas, de ce monde, mais aussi le plus imprévisible. Tout ce que nous avons vu, oui, il y a eu des dilatoires qui ont, dans une certaine mesure, retardé la signature de ce accord, mais qui, par la fin, on a vu sur le symbolique, c'était assez important des chefs de l'État qui ont fait la file pour se tenir devant Donald Trump, signer, donner aux Américains ce dont ils ont besoin, sans pour autant réfléchir sur nos peuples, sur notre intérêt en tant que Congo. Je ne vois pas d'issue possible. Encore une fois, comme le disait l'honorable Monubo, à un certain moment, il faut s'arrêter et se demander, oui, ça a été documenté que le Rwanda soutient le M23, mais jusqu'à quel niveau la rébellion de l'AFC M23 aurait construit sa propre agence, capacité d'agir dans le sens à se rendre autonome du Rwanda. Et on a vu que le Rwanda n'a pas retardé à réagir, se portant comme l'autre fois à Paris, porte-parole de la rébellion du M23. Et ce discours, ce narratif ne profiterait que au M23. Parce que de la même façon que les États-Unis ont sécurisé, obtenu ce dont ils avaient besoin, aujourd'hui, le Rwanda, il est dans une position vraiment assez confortable, dans le sens où ça ne sera pas vraiment à eux de directement jeter la première pierre ou de dire encore que votre responsabilité, qui jusque-là, les Américains n'ont pas encore investi assez afin de le prouver davantage que au-delà de la documentation existante du soutien du Rwanda au M23, il est passé de quel niveau d'apport à aujourd'hui quel niveau d'apport. C'est une information que sûrement ils disposent, les Américains, mais pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas dans ce sens-là à vraiment mettre davantage de pression sur le Rwanda pour qu'il se retire et qu'avec un peu d'espoir, on pourrait voir le M23 affaibli et que une contre-offensive, peut-être, je n'y crois pas trop, pourrait aider à rétablir l'autorité de l'État. Deuxièmement, si la logique militaire ne marche pas, et je pense que nous sommes d'accord là-dessus, il y a des canaux de dialogue. quelqu'un nous disait tantôt que lorsqu'on ne peut pas combattre, on dialogue. Et je pense que c'est l'issue la plus favorable. Et le mécanisme qui, dans une certaine mesure, aiderait à adresser les 6 protocoles restants de 8 que propose Doha, parce qu'il s'agit maintenant de Doha, pour une parenthèse, il faudrait aussi dire que la réintensification de ces affrontements est en train d'une certaine manière de consacrer Doha, mais seulement Doha ne sera pas vidé avec les 2 seules personnes sur la table, parce qu'il y a des thématiques, Madame Kelly, qui ne devraient jamais ou qui ne seront jamais résolues avec un discours, je vais dire un dialogue juste entre le M23 et le gouvernement congolais.
Il faut réunir toute la classe politique, selon vous.
C'est ce que je suis en train de dire. Et je pense que le gouvernement congolais reste gagnant dans une certaine mesure où élargir ce cadre de dialogue ne mettrait pas en lumière que les demandes du M23. Par contre, il contribuerait à diluer tant soit peu aujourd'hui la pression que le M23 impose au gouvernement, de façon à ce que on trouve une solution pour une fois, pour toutes, pour toute cette gamme de problèmes, et non pas résoudre aujourd'hui le M23 et demain se rendre compte que voilà, la CRPC est reconstituée ou que les EDF sont devenus encore plus meurtriers qu'ils ne le sont déjà. Donc pour moi, je pense que oui, la logique militaire, de plus en plus, nous voyons en faveur de qui l'avantage tourne. Et continuer dans cette réflexion avec la perte de ce dernier partenaire que le Congo avait, le Burundi. On ne peut pas espérer à la Tanzanie parce que nous savons tous ce par quoi la Tanzanie vient de passer. Et les rapports au niveau régional restent assez incertains aussi pour dire que après le type de collaboration que le Burundi vient d'avoir avec le Congo, qu'il y ait un autre pays qui va s'hasarder à investir des moyens, y compris ses hommes, pour protéger les Congolais.
Merci. Vous êtes très, très nombreux à suivre cette émission sur, que ce soit sur la page Facebook, sur le compte X et sur la chaîne YouTube de Radio Okapi. Beaucoup de réactions. Les auditeurs qui nous suivent depuis Uvira, Bukavu, Goma, Lubumbashi, Afrique du Sud, vous êtes tellement nombreux. Avant de lire vos réactions, on va prendre d'abord ceux qui sont en ligne au téléphone, ces auditeurs qui sont en ligne. On va aller à Mbujimayi au Kasaï oriental pour écouter cet auditeur.
C'est Smart Allonge, j'interviens à partir de la ville de Mbujimayi. Notre gouvernement est dans une impasse car il a placé tous ses espoirs dans une diplomatie d'accord qui n'apporte rien sur terrain. Les accords signés à Washington prévoient quoi en cas de violation des conventions comme nous les constatons actuellement? Quand le président Tshisekedi prendra-t-il ses responsabilités en main et cessera-t-il de se plaindre auprès des autres États comme il le fait actuellement? Soyons conscients, car la RDC n'a jamais connu une situation aussi ridicule depuis son indépendance.
Juvenal, mon nouveau.
Alors, tout en répondant...
En cas de violation de l'accord.
Alors, je voudrais au même moment répondre à M. Kalonji, que j'ai bien suivi, mais au même moment répondre un peu aux collègues qui sont avec moi ici dans l'émission. Uh-huh. C'est vrai, quand il y a des efforts diplomatiques qui sont fournis, comme c'est le cas maintenant du président Tshisekedi, je crois qu'il faut les encourager. Et parfois, on n'a toujours pas des résultats tout de suite. Je vais vous rappeler un cas, honorable Kasekwa. En 2002, on est en pleine deuxième guerre du Congo, ce qu'on appelait la guerre du RCD, mais ce n'était pas que la guerre du RCD, il y avait les MLC aussi, les RCD-KML, les RCD-N, avec celui qui est poursuivi maintenant en France,
Lumbala.
Eh bien, pendant que se déroulaient les négociations à Sun City, en Afrique du Sud, il y a eu 2 accords importants qui ont été signés. Il y a l'accord de Pretoria entre Joseph Kabila et Paul Kagame pour le retrait des troupes rwandaises il y a eu aussi l'accord, toujours en 2002, l'accord de Luanda pour le retrait des troupes ougandaises. Et beaucoup de gens ne croyaient pas. Hein. À l'époque, je me rappelle, j'étais encore aux études, mais quelqu'un me disait, mais à quoi ça va? Les gens pensaient qu'il n'y a que Sand City qui devrait aboutir. Parce qu'à Sand City, c'était un dialogue inclusif avec la classe politique, la société civile. Mais on a vu au lendemain de la signature, ce n'était pas tout de suite au lendemain aussi, mais on a vu quelques jours après, les troupes rwandaises commençaient à se retirer de Goma et tout ça. C'est pour vous dire que moi, je crois à la pression diplomatique.
Là les troupes s'est retirées, mais là, c'est, les troupes, au lieu de se retirer, sont en train d'avancer pour conquérir d'autres localités.
On a signé que les quatre. Je sais que les souffrances sont atroces de nos populations, mais on a signé il n'y a même pas une semaine.
Il faut attendre combien de temps pour que cet accord soit appliqué?
Ce n'est pas quelque chose d'assez arithmétique, parce qu'en 2002, il y a eu ces accords-là entre le Congo et le Rwanda, entre le Congo et l'Ouganda, et quelques jours après, je ne dis pas que ça devrait se passer dans une semaine, on a vu ces troupes se retirer. Alors, on pense peut-être qu'aujourd'hui, que c'est du domaine de l'impossible que les forces rwandaises se retirent du Congo, mais moi je crois, lorsque une action diplomatique porte des fruits, eh bien on peut assister à ça. Mais je pense que ce qui est urgent pour le moment, et je crois que tout en appelant évidemment à la vigilance, nous devrions beaucoup plus encourager un atterrissage en douceur du processus de paix. Moi, je crois que le moment est venu et ça devait même être une demande du Parlement. Hein, parce que moi, ce que j'attends du Parlement, Assemblée nationale, Sénat, ça serait d'examiner, par exemple, ces accords qui ont été signés, parce que c'est prévu, la ratification, ça aurait dû déjà être fait, d'ailleurs, à lire strictement la Constitution, l'article 214. Et donc, à part examiner ces accords qui ont été signés, mais ça devrait aussi être de voter une recommandation demandant à ce qu'on conclue vite les négociations de Doha. Parce qu'il n'y a que ça qui peut nous aider à ce que l'autorité de l'État soit vite restaurée. Est-ce que maintenant, là, soyons réalistes, est-ce que maintenant, c'est le moment de continuer avec cette mobilisation des citoyens pour agrandir les rangs de Ouazalendo, recruter d'autres Ouazalendo? Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que ça aura d'ici? Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, il faut se rendre compte, est-ce que ça avance? On a eu recours aux Ouazalendo, on a eu recours aux forces étrangères, vous voyez, burundaises en l'occurrence. Mais il faut évaluer à un moment donné. Moi, je crois qu'il faut faire atterrir les processus de paix en douceur. Il faut vraiment conclure, mais tout en ne cédant pas tout, évidemment. Il faut savoir quelles concessions on adopte. Même cette histoire de gestion, co-gestion intérimaire, il faut faire attention. Mais profiter de ce momentum, le moment de la conclusion des accords, hein, de ce moment d'accalmie, parce qu'il y en aura. Il ne faut pas que les gens soient sceptiques, penser qu'il n'y en aura pas. Ça va venir. Il y aura un moment, les armes vont se taire, l'aéroport de Goma sera rouvert, il faut y croire. Et profiter de ce moment-là pour refonder vraiment l'État. Réformer l'armée, appliquer toutes ces recommandations qu'on a toujours eu à adresser au gouvernement pendant que nous étions avec d'ailleurs mon collègue Kassé.
Mais que pensez-vous de ceux qui parlent, qui insistent sur l'organisation du dialogue inclusif?
Alors, il y a d'abord l'urgence numéro un pour l'instant, là, c'est voir dans quelle mesure conclure cette histoire de Doha. C'est pour parler de Doha. Pourquoi? Parce que vous pouvez bien réaliser des progrès à Washington dans les processus entre Kinshasa et Kigali, mais aussi longtemps qu'on ne trouve pas une solution dans le fond par rapport à ceux qui occupent Nord Kivu, Sud Kivu, eh bien, moi, je crois qu'il faut vite finir. Mais aussi, je pense qu'il faut, parce que les problèmes qu'on a, l'interlocuteur en face du gouvernement, ça ne devrait pas être que le M23. Il y a tant de problèmes. Et là, je suis tout d'accord avec les acteurs politiques qui pensent qu'il faut un dialogue inclusif. C'est très important, un dialogue inclusif. Mais il faut faire attention. Les dialogues inclusifs, ce n'est pas un moment d'un grand déballage comme ce fut le cas de la CNS qui aboutit finalement, ou comme à Sand City, à un partage du pouvoir, les fameux partages du gâteau. Si c'est un dialogue pour refonder, aider à refonder l'État, aider à rebooster ou à relancer les réformes, que ce soit dans les fonciers, dans l'administration de la justice, dans la réforme de l'armée, dans le contrôle des armes qui sont en circulation terriblement à l'est du Congo, eh bien, quelle diplomatie dans la région pour éviter toutes ces agressions? Comment surtout faire l'armée pour préparer de nouvelles guerres? Parce que ne vous en faites pas, il y aura un moment où il y aura des accords, il y aura la paix, mais il faut toujours penser, j'ai dit bien préparer de nouvelles guerres, parce qu'aussi longtemps que nous avons d'énormes ressources du sol et du sous-sol, nous sommes objets de convoitises.
Merci.
Et ça, il faut toujours préparer d'éventuelles nouvelles guerres. Et pour ça, il faut réformer l'armée. Il faut vraiment... c'est vrai que
vous
le
insistez sur la réforme de l'armée.
Je voudrais un peu vraiment placer les clous là-bas, enfoncer. À part la réforme de l'armée, ce n'est pas seulement l'augmentation du budget de l'armée, parce que ce budget a été sensiblement augmenté.
Il faut quoi d'autre ?
Il faut les contrôles. Il faut que l'inspection générale de l'armée fasse son travail. Il faut que l'auditorat fasse son travail. Il faut que la société civile s'implique davantage. Il faut que la société civile collabore avec les parlementaires et les parlementaires collaborent avec la société civile pour les suivis du secteur de sécurité.
Merci.
Ça, c'est très important. Il faut du contrôle presque.
Merci. On va vous
Contrôle parlementaire, contrôle citoyen.
On va aller, cette fois-ci, c'est dans quelle province, me signale là-bas, dans le Olomami. Olomami, Charles Mpoudika, qui nous suit depuis les Olomami, qui est en ligne. On va le prendre très rapidement.
Charles Mpoudika, j'interviens depuis la ville de Luena, province du Olomami. L'option militaire pour mettre fin à cette guerre ayant largement montré ses limites, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo devrait se montrer rassembleur en mettant les Congolais toutes tendances confondues autour d'une table afin de chercher la solution à l'interne. Car même la médiation étrangère se bute de plus en plus à cette même difficulté. Durcir le cœur ne fera que souffrir le peuple déjà victime de beaucoup d'autres maux.
Alors, je vais ajouter la réaction de Flori Boang, qui nous suit depuis la province du Kasaï central. Nous devons dialoguer avec ces rebelles au lieu d'exposer la population congolaise à la mort. Votre réaction, Jean-Baptiste Kasekwa?
Je suis d'avis que le dialogue est plus que opportun, raison pour laquelle le président Martin Fayoulou avait accepté d'aller rencontrer Félix le 5 juin 2025. Malheureusement, Félix, comme à l'endroit des évêques et pasteurs, il a réservé une fête non-recevoir aux démarches pacifiques, aux voix pacifiques qui lui sont adressées comme s'il n'écoutait que le langage des armes. Aujourd'hui, la chute de la ville d'Uvira montre que plus l'État passe, plus on s'achemine vers une situation où ceux qui auront la supériorité militaire pouvant même rejeter les demandes de dialogue et vont poser de préalable avant d'accepter. Souvenons-nous de l'Outenika. Outenika, sous 97, eh bien, Laurent Désiré Kabila s'est dit: je ne négocie plus, tout ce que je négocie, ce sont les conditions de la démission de Mobutu. Qu'adviendrait-il si aujourd'hui Félix continue à se crisper? Il a dit le 22 février, après la chute de Bukavu et de Goma, il a dit on ne peut pas négocier dans cette position de faiblesse. Aujourd'hui, cet état de faiblesse s'aggrave davantage. Mais s'il se crispe davantage et ne prend pas de la hauteur pour envie du dialogue, et que Kalemi tombe par malheur, et que qu'il nous soit menacé, avec Kisangani, le Katanga. Mais ces gens-là, nous allons écouter des préalables déjà, nous n'allons accepter des dialogues que si telle condition, telle autre. Il ne faut pas qu'on en arrive là.
Vous pensez que si le président Tshisekedi décide de convoquer le dialogue aujourd'hui, cette rébellion ne va plus avancer, elle va s'arrêter?
Alors, pour que le dialogue réussisse, il faut que Félix abandonne aussi sa logique, sa prétention d'après laquelle le dialogue ne peut se tenir qu'à sa convocation. Je pense qu'aujourd'hui, simplement, il faut qu'il négocie avec des pays africains tels que l'Angola, tels que d'autres, le médiateur de l'Union africaine, toute cette équipe-là, pour leur dire: s'il vous plaît, intervenez avec l'appui de l'Union européenne qui est de plus en plus mise à l'écart par Trump. Trump, lui, qui dit on va gagner de l'argent au détriment des Chinois en RDC. Donc, l'Union africaine, les chefs d'État africains qui interviennent, en collaboration avec l'Union européenne, avec les États-Unis, pour que l'Union africaine convoque un dialogue qui réunit tout le monde. Et là, par exemple, étant donné qu'on va renouveler, reconfigurer le mandat de la MONUSCO, de toute urgence, il faut qu'on lui donne le mandat de la surveillance du cessez-le-feu et que, avec cette bonne volonté vers un dialogue inclusif, la communauté internationale entre dans une dynamique de sanctions contre tous ceux qui vont violer le cessez-le-feu, il faut dire aux gens du M23 que même si aujourd'hui ils ont les déchus militaires sur Tshisekedi, nous n'allons pas accepter ces fameux protocoles de Doha, système de congestion du Kivu, système de forces intérimaires. Non, le Congo n'est pas un pays à vendre, ce n'est pas un pays sans maître. Et donc, d'ailleurs, bien qu'ils prennent le contrôle des grandes villes, ils savent par exemple autour de Bukavu, toute la résistance autour de Goma, dans les Bouito, tous ces gens autour de Bukavu, dans le territoire de Fizi, les Congolais n'ont pas abdiqué et les M23 n'ont pas intérêt d'entretenir cette zone de non-droit dans l'est de la RDC. Nous avons donc tous intérêt à un dialogue inclusif, que les gens du M23 mettent de l'eau dans leur vin, que Félix abandonne son arrogance après laquelle il n'aura de dialogue qu'à sa parole, comme si c'est le dieu du Congo qui fait tomber la pluie et les beaux temps. Non, on doit être humble et avec le concours de ses partenaires africains et internationaux, on va vers un dialogue inclusif pour nous donner les chances de refonder la RDC.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, sud Kivu.
Est-ce que Vital l'auditeur... Nyunda, depuis Bukavu au sud Kivu. Ma préoccupation est de savoir pourquoi les FRDC sont dans des replis stratégiques en avançant comme motif. Elles sont en train d'épargner les vies civiles. Il faut se poser la question jusqu'où elles iront pour que les vies civiles ne puissent plus être mises en danger. Deuxième préoccupation, à quoi ont servi les accords signés à Washington entre le président Tshisekedi et Kagame? Parce qu'on ne voit pas les conséquences de ces accords sur le terrain. Parce qu'on pensait que ça allait stopper l'avancée des rebelles du M23. Mais au contraire, on a constaté que c'est comme si ces accords ont accéléré l'avancée des troupes du M23 sur le terrain. À quoi servent les milliards de dollars décaissés dans la caisse publique? Soi-disant, ce sont des efforts de guerre qu'on est en train d'envoyer aux troupes qui sont sur le front. Alors que sur la ligne de front, on ne voit pas vraiment l'impact de ces milliards de dollars qui sont décaissés. Soi-disant, on achète des armes et des équipements de guerre.
Alors, Henri Pacifique Mayala, cet auditeur se pose plusieurs questions. Il veut comprendre pourquoi, après la signature de l'accord, la rébellion continue de conquérir certaines nos localités, alors que dans l'esprit, dans la tête des Congolais, c'est que après cette signature, le calme reviendrait. Là, il y aura plus des guerres, la rébellion s'arrêterait. Alors, il y a beaucoup de questions qui reviennent dans ce sens. Comment vous répondez?
Est-ce que
l'accord a été mal expliqué à la population? Est-ce qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas dit la vérité aux Congolais sur l'accord?
Tout à fait. Je pense que par devoir de redevabilité, il faudrait que notre gouvernement fasse encore plus d'efforts à disséminer le processus, ce qui a été convenu. J'ai vu que, par exemple, le ministère de la Communication a multiplié des feuillets qui, plus ou moins, synthétisaient l'accord de Washington tel que signé par le ministre des Affaires étrangères le 27 juin. Ce qui est une bonne initiative parce que je pense que ces accords que les populations locales devraient subir devraient être mis publiquement, sans pour autant qu'il y ait ce secret autour comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour revenir sur la question spécifique de notre compatriote Vital, pour ce qui concerne le retrait continu des FRDC et les millions que jusque-là nous avons appris investis dans le système sécuritaire du pays. Il est vrai que maintenant, l'allocation de presque 30% du budget va vers l'armée, mais comme le disait tantôt l'honorable Mounoubo, ça ne suffit pas. Il faut qu'au-delà de cela, il y ait ce contrôle autant citoyens que par les parlementaires. Sinon, lorsqu'on doit se souvenir du carnage de Goma, lorsqu'on se souvient de ce qui s'est passé à Bukavu, l'ultime prière serait que les populations vulnérables qui ont encore tant souffert, lorsqu'on ne peut pas combattre, que cette voie du dialogue soit privilégiée. Certes, les efforts d'essai continuent d'être gangrénés par des mots qui partent du népotisme à la corruption, mais c'est déplorable, oui, qu'il y ait ce semblant de protection qu'à tout moment où les populations devraient attendre protection de FARDC, qu'au lendemain, ils se retrouvent sous occupation répressive. Pour ce qui concerne l'accord de Washington, là encore, je reviens sur ce devoir et ce besoin de redevabilité.
Essayez de vous résumer, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Tout à fait, la confusion persiste. Et il faudrait que nos compatriotes sachent que le 4 décembre, ce n'est que l'accord qui était déjà signé le 27 juin par les ministres des Affaires étrangères du Congo et du Rwanda qui a été entériné par les chefs de l'État. Dans une certaine mesure, on peut dire que sur ce volet-là, il n'y a pas eu du nouveau. Malheureusement, nous tous, nous savons que cet accord-là, sa mise en œuvre n'a pas avancé. En dehors de l'entérinement de cet accord de paix, il a été signé à Washington le 4 décembre un accord sur le partenariat économique, partenariat stratégique avec volet économie et avec volet sécuritaire. Et là encore, c'est une interpellation au gouvernement de disponibiliser tous ces engagements auxquels notre gouvernement consent pour que les populations savent comment et à quoi s'attendre, ainsi que pour la société civile, comment au meilleur d'accompagner le gouvernement. Oui, l'accord sur le volet économique a circulé, mais jusque-là, il n'y a personne qui sait ce à quoi le Congo s'est engagé en termes de partenariat stratégique en matière de sécurité.
Merci.
Et encore que pour le volet économique, ce à quoi s'est engagé le Congo, c'est pratiquement d'accorder aux Américains un accès privilégié à tout ce qui est pressenti comme matière stratégique et laisser les Américains décider à leur bon vouloir. Alors
Merci.
Qu'il y a cette expérience douloureuse ou avec la mine de Chemaf, ça a été juste pour les Américains de coincer les Chinois, un peu comme si la guerre par procuration, la guerre économique par procuration entre la Chine et la RDC devrait se jouer sur la vulnérabilité des Congolais. Donc là, sur ce point-là, je pense que notre gouvernement devrait prendre au sérieux son devoir de redevabilité et mettre à la disposition de Congolais, ce sur
Merci
quoi il s'est engagé.
Merci beaucoup, Henri Pacifique Mayal. On va considérer cela comme votre conclusion. Juvenal Mounoubo, il y a un auditeur, Franck, qui nous écrit depuis Bruxelles, en Belgique, et demande comment vous, de la majorité, vous comptez restaurer la confiance de la population qui a vu ses dirigeants rassurer la veille, puis l'armée s'est retirée le lendemain. En une minute.
Alors, rassurer la population, c'est du devoir
de restaurer la confiance de la population.
Oui, mais
veille, on a rassuré, le lendemain, l'armée s'est retirée.
C'est pas la charge du seul gouvernement, vous voyez un peu. La nation nous appartient, nous tous. C'est vrai que le gouvernement est en avant-plan, mais lui, l'auditeur Franck qui parle, c'est un Congolais. Alors, quel est le message qu'il lui envoie? Comme sa contribution.
Mais
aussi.
C'est vous qui avez rassuré la population.
Oui, mais le rôle d'un gouvernement, c'est de rassurer la population. Uh-huh. Mais que ce soit Franck, que ce soit ceux qui sont au gouvernement, que ce soit qui sont dans l'opposition, qui a la maîtrise du futur, qui sait exactement ce qui va se passer après un mois, après deux mois. Le futur est imprévisible par nature. Alors, je voudrais revenir rapidement sur...
On n'a plus beaucoup de temps.
Oui. Vous voyez les accords de Washington.
Conclure.
Les accords de Washington qui élisent, c'est un peu comme l'accession du Congo à l'indépendance. Il y a eu une grande euphorie. Et souvent, l'indépendance n'était pas bien comprise. Il y a des gens qui pensaient qu'au lendemain, ils entreraient dans la maison des Blancs et tout et tout. Et pourtant, il y a tout un travail. Le travail ne faisait que commencer. ne devait que commencer. Et donc, après la signature de ces accords, ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut une pression diplomatique forte pour que le Rwanda retire ses troupes. Mmh. Il faut également étudier ces accords-là, parce qu'il pourrait bien y avoir les diables dans le détail, comme on dit, des pièges. Et le Parlement a un grand rôle à jouer. Et puis, savoir qu'il y a ce qu'on appelle la ratification. Les parlementaires peuvent ratifier ou non. Donc, il y a deux hypothèses. Ça peut arriver aussi qu'ils n'acceptent pas de ratifier ces accords. Et donc, les parlementaires, les députés, ils doivent bien faire leur travail.
Merci.
Il faut aussi vulgariser. Mais aussi, et je termine, il existe ce qu'on appelle les mécanismes de surveillance et de vérification du cessez-le-feu. Pourquoi les parlementaires ne peuvent pas proposer la saisine de ces mécanismes-là, poser la question à ce mécanisme, qui viole les cessez-le-feu et pourquoi il les viole? Parce qu'après, il faudrait bien qu'il y ait des sanctions contre ceux qui violent les cessez-le-feu.
Merci, Juvenal Mounoubo. Votre conclusion, Jean-Baptiste Oka, c'est quoi?
Ma conclusion, c'est que la nation est en danger. J'invite toutes les forces vives à s'élever. Trump, dans son tempérament, il aime les gagnants. Nous le voyons dans son comportement vis-à-vis de Zelensky. Il n'est pas surprenant que demain, M. Boulos soit à Doha pour imposer à la RDC de signer sans plus de discussion les 8 protocoles intégralement, donc pour donner l'intégralité des avantages au M23 au détriment de l'intégrité de la RDC. Donc, de la même manière que Félix, pour maintenir son pouvoir, il a tout cédé dans le fameux accord de partenariat, le Congo n'appartient pas aux deux belligérants. Nous devons nous lever pour exercer la pression de tous côtés, mais également que le dialogue national inclusif par des médiateurs nets soit rapidement lancé, accompagné de la mise en œuvre effective de la surveillance des cessez-le-feu par la MONUSCO dont le mandat sera renouvelé très
Merci
bientôt.
Jean-Baptiste Kasekwa, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Restez branchés sur la fréquence de la paix.